Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC pour une soirée de rugby pour l'épilogue de cette saison régulière de Top 14. À l'issue de cette 26e journée, nous connaîtrons les 6 équipes qui vont participer aux phases finales. Alors vous le savez, bien évidemment, le champion de France en titre, Toulouse, Montpellier, le Stade Français et Pau ont déjà décroché leur ticket. Il reste 2 places pour 4 prétendants, le Racing 92, l'UBB, La Rochelle ou Clermont. Tous les enjeux, nous serons évidemment sur tous les terrains pour vous faire vivre cette soirée de folie. Il est là, à mes côtés, prêt à vibrer sur toutes les pelouses de Top 14. C'est Yoann Huget. Tout va bien, Yoann ?
Ouais, très bien, merci. Salut à tous.
On va se régaler avec de très très belles affiches et avec beaucoup d'enjeux, parce que c'est vrai que ces dernières semaines de Top 14 ont été vraiment exaltantes.
Exaltantes, un peu cachées par l'actu sportive du PSG, et on revient un tête d'affiche avec une dernière journée incroyable, remplie de suspense.
Alors on va parler du Top 14 dans quelques secondes, on va faire le tour évidemment de tous les terrains avec nos envoyés spéciaux, mais un petit mot également sur la Pro D2. Il y avait un match ô combien important entre Vannes et Provence Rugby. Qui va jouer en Top 14 la saison prochaine? Eh bien c'est Vannes qui s'est imposé 18-14.
Ouais, superbe retour des 21 Top 14. Ils avaient fait très belle figure il y a 2 ans, ils sont descendus, ils remontent vite fait, bien fait, et voilà, une pensée aussi aux Aixois et Philippe Saint-André qui ont réalisé une très belle deuxième partie de championnat.
Une deuxième partie de championnat exceptionnelle. Bravo donc à Vannes qui retrouve l'élite. Vous le savez, ce week-end, nous vous faisons des magnifiques cadeaux en vue de cette Coupe du Monde. Vous allez pouvoir remporter votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 stickers. Oui, j'ai bien dit 350 stickers. C'est à gagner toutes les 30 minutes. Il y a évidemment un tirage au sort. Alors vous envoyez dès maintenant Panini au 732-16. Panini au 732-16. Bonne chance à tous, et RMC vous offre donc ce cadeau absolument magnifique qui passionne les enfants comme les adultes. Nous allons donc prendre la direction des différents terrains de Top 14 avec notamment l'UBB qui est opposé à Clermont ce soir, et on va tout de suite retrouver Pierre Thévenet. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Karine, salut Johan, salut à toutes et à
Pierre.
Tous.
Alors Pierre, ce sont deux équipes qui ne sont pas au mieux. Alors d'un côté évidemment, on a le double vainqueur de la Champions Cup qui est fatigué et qui devra faire sans plusieurs joueurs. Évidemment, on pense notamment à son maître à jouer Mathieu Jalibert qui est touché au mollet. Les champions d'Europe, clairement, ils sont en danger. Et puis du côté de Clermont, il y a une défaite cinglante devant son public. C'était lors de la précédente journée, 13-41. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et il y a deux équipes qui n'arrivent pas au taquet pour cette ultime journée.
Exactement, c'est pas tout à fait les mêmes cas, mais tu l'as dit, deux équipes pas forcément en pleine confiance, même si Bordeaux est allé gratter un petit point de bonus défensif à Toulon qui leur permet d'être au coup d'envoi de cette journée dans le top 6 et donc d'avoir son destin entre les mains. L'équation est simple pour les Bordelais: s'ils gagnent avec le bonus offensif ce soir face à Clermont, ils seront qualifiés pour les barrages du top 14. Sinon, il faudra commencer à regarder sur les autres pelouses. On pourra voir les scénarios tout à l'heure, mais tu l'as dit Karine, il manque du monde à Bordeaux, il manque notamment Mathieu Jalibert touché légèrement en mollet, Cameron Wauquiez blessé au genou, Tamé Ifuna pour qui c'est la fin de saison. Si on regarde Johan, Jalibert, Wauquiez, deux porteurs, à eux trois, il y a 23 essais cette saison en top 14, donc évidemment c'est des absences qui vont compter pour un match aussi crucial.
Oui, effectivement, tu as raison Pierre, c'est des absences qui sont de marque aujourd'hui côté UBB, mais un gros calendrier de leur part. Ils sont champions d'Europe. Bien entendu, jouer sur les deux tableaux, c'est très éreintant physiquement, mais encore une fois, grâce à leur confiance et leur opportunisme, ils ont réussi à ramener un point de Bordeaux qui n'était pas facile, parce qu'au vu de leur semaine
de Toulon,
contre le titre qu'ils ont fêté durant toute la semaine, aller ramener un point de bonus défensif, c'était pas évident. Donc félicitations à eux. Maintenant, attention à Clermont. Clermont qui fait des coups à l'extérieur malgré son faux pas.
Alors justement, on va en parler de Clermont avec toi Pierre, et c'est vrai que Clermont a quand même dans son ADN l'habitude de ses missions commando, et surtout les Auvergnats ont l'habitude de très bien finir.
Exactement, avec leur manager Christophe Furios notamment, qui est passé en mode commando évidemment cette semaine avec ses joueurs. Il faut gagner, il n'y a pas le choix pour les Clermontois, gagner et espérer soit une défaite du Racing, soit une défaite du Stade Rochelet ce soir. On le verra sur les autres rencontres, mais Clermont a été balayé la semaine dernière par le Racing 41-13, alors qu'ils avaient leur destin entre les mains, les Clermontois, sur cette fin de saison. Mais Johan l'a dit, ils sont capables de faire des coups à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Montpellier, ils sont allés gagner à Toulouse, ils sont allés gagner à Toulon également cette saison. et l'an dernier, ils étaient à peu près dans la même situation, Johan. Fallait gagner à Montpellier et espérer deux résultats positifs, et ça avait été le cas. Donc Clermont sait le faire. Là, il faudra le faire sur la pelouse du double champion d'Europe, mais en tout cas, c'est pas impossible pour les Jaunards.
Mais c'est le scénario parfait pour Christophe Furios. Il adore être au pied du mur comme ça avec son équipe et derrière inverser des montagnes. Donc pour lui, on va dire la motivation est tout trouvée pour aller, on va dire, faire un gros coup à l'UBB.
On va parler de Bordeaux avec toi également, Johan, parce qu'évidemment, il y a eu ce doublé obtenu, c'était le 23 mai dernier, avec ce succès face au Leinster 41-19. Mais est-ce que tu as un petit peu d'inquiétude côté bordelais? On a l'impression qu'ils sont vraiment à plat. Alors, ils ont évidemment gagné à nouveau cette Coupe d'Europe, ils l'ont très bien fêté, mais là, ils sont quand même à bout de souffle pour cette ultime journée de Top 14.
Bah, on peut croire qu'ils sont à bout de souffle, mais ce qu'ils ont fait en ayant très peu d'entraînement la semaine dernière à Toulon, aller chercher ce point de bonus défensif qui leur permet d'avoir toutes leurs cartes entre leurs mains, je trouve ça remarquable, hein, parce qu'on se rend pas compte de la difficulté d'aller gagner, d'aller chercher un point de bonus défensif à Toulon. Donc il y a une part d'inquiétude parce qu'on se dit ils sont champions d'Europe et ils risquent de ne pas être dans les 6, mais s'ils ne sont pas dans les 6, c'est pas par rapport aux ces 2-3 derniers matchs, c'est ce qu'ils ont fait avant où ça a été très compliqué pour eux de s'imposer à l'extérieur, ils ont eu du mal à enchaîner les performances en top 14, et disons que la Coupe d'Europe leur réussit bien.
T'es d'accord, j'ai entendu Pierre avec Yuen, j'ai entendu un oui.
Merci, non, mais quand on regarde la saison du Stade Toulousain par exemple, ils ont pris les points plus tôt dans la saison, ils ont construit leur matelas d'avance que Bordeaux n'a pas réussi à faire, et donc effectivement ils se retrouvent un petit peu à flux tendu sur cette fin de saison avec les blessés qui commencent à tomber.
Il y a surtout une grosse blessure, c'est celle de Maxime Lecu, hein. C'est ça qui les a pénalisés, et ils ont perdu beaucoup de points quand il n'était pas là.
Et là, ce soir, Mathieu Jalibert n'est pas là. Donc, selon toi, à quel point ça va les impacter? On sait très bien qu'il y a un Bordeaux avec Mathieu Jalibert sans Mathieu Jalibert. C'est moins important que Maxime Lecu pour toi?
Voilà, c'est moins important que Maxime Lecu. Maxime Lecu, on le voit, c'est vraiment le métronome de cette équipe. Quand il est là et quand il n'est pas là, ça se ressent et on le voit. Ils ont failli perdre deux matchs et heureusement qu'il rentre à la 60e ou à la 50e. Et Yannick Bru était un peu mécontent parce qu'il se dit on tire sur la corde de certains joueurs et dont Maxime Lecu et Mathieu Jalibert. À chaque fois qu'ils rentraient, ils ont réussi à faire pas mal de différence en deuxième mi-temps. On pense à ce match face à Perpignan où ils étaient menés. Et voilà, ils n'ont pas réussi à prendre le point de bonus offensif également face à cette équipe-là qui venait sans ambition. Ils venaient jouer comme ça, sans rien perdre. Et au final, ils sortent d'un match un peu bourré.
On rappelle donc c'est l'UBB face à Clermont ce soir, le 6e face au 8e, et les deux donc peuvent encore prétendre à une place dans le top 6. Pour toi Pierre, l'UBB est vraiment favori?
Oui, à la maison, oui. Clermont n'a pas gagné ici depuis 2017, hein. Et même s'il y a eu deux matchs nuls entre-temps, mais Clermont a souvent du mal à s'imposer ici. Maintenant, il va falloir que Bordeaux prenne vite un petit peu d'avance parce que les Clermontois vont évidemment rien lâcher dans cette rencontre. Et eux, pour le coup, n'en ont pas d'autre choix que de gagner. Et puis, ils regarderont après. On peut penser que Bordeaux va avoir un œil sur ce qui se passe à La Rochelle, un œil sur ce qui se passe au Racing. Clermont, il faut gagner. Et puis, ils verront bien à la fin, au moins finir positivement après la gifle reçue la semaine dernière. Ça va être ça la clé. Est-ce qu'ils ont réussi à se relever de ce gros coup encaissé la semaine dernière par le Racing? On les avait rarement vus autant en perdition cette saison. Est-ce qu'ils ont réussi à relever la barre et venir embêter les Bordelais? En tout cas, sur le papier, avec l'absence de certains Bordelais, je pense que les Clermontois ont les armes pour embêter au moins ces Bordelais.
Merci beaucoup Pierre, on revient te voir dans quelques minutes. On continue notre tour des stades, vous le savez, 7 matchs au programme pour la dernière journée de la saison régulière de Top 14, et on va partir à La Rochelle retrouver Romain Asselin ce soir. La Rochelle est opposée au Stade Français. Salut Romain.
Salut Karine, salut Johan, salut tout le monde.
Alors de ton côté, on a un match qui est très indécis. Les Rochelais, on le rappelle, n'ont pas leur destin entre les mains alors que le Stade Français vient chercher la deuxième place. Mais les Rochelais ont évidemment des arguments. Ils sont en pleine forme et restent notamment sur 5 victoires de suite. Et du côté du Stade Français également, il y a ce boost avec le week-end dernier, une victoire bonifiée face à Bayonne.
Effectivement, il y a de l'enjeu des deux côtés, comme à Chabans, on vient de l'entendre. C'est le deuxième match phare, hein, avec une équipe de La Rochelle qui va tenter de jouer son va-tout. Elle qui a été annoncée perdue pour la qualif il y a encore quelques semaines, hein, même ne serait-ce que mi-avril, avant cette belle dynamique qui leur a permis de remonter et qui leur permettrait, s'ils se qualifient, eh bien, de faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire du Top 14, de partir d'aussi loin. Ils étaient dixième en février. Ils avaient beaucoup de retard, deux grosses défaites. défaites de suite à la maison. On les pensait vraiment au fond du seau avec une infirmerie remplie à ras-bord. Et puis il y a eu une bascule après la trêve de mars. Et depuis, ils font leur petit bonhomme de chemin, Johan. Hein. Ils sont en pleine forme, les Rochelais. C'est l'équipe la plus en forme du moment.
Ouais, ils arrivent en forme au meilleur des moments. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour cette équipe rochelaise? Mais en tout cas, ils font forte impression. Ils ont un calendrier aussi favorable, il faut le dire. Ils sont allés à Montauban. Ils ont réussi à battre Toulouse avec le point de bonus offensif également. Ils arrivent à sortir de très bonnes performances collectives. Et c'est ce qui manquait un peu avec de nouveaux joueurs qu'on voit apparaître. Fabre qui renaît de ses cendres également. Donc, une très belle équipe rochelaise et qui peut faire un coup également sur ce top 6.
Romain, tu as parlé d'un match bascule. C'est celui lors de la victoire à Castres sur la pelouse de Castres. C'était en février. Et depuis, c'est 8 victoires en 9 matchs. C'est impressionnant.
Il y a eu un petit accro à Bayonne.
C'est le seul.
Voilà, c'est le seul. Après, le vrai match bascule de fin de saison, c'est la victoire au Racing. Parce qu'en fait, les Rochelais, ils jouent des matchs éliminatoires depuis un mois et demi. Hein. Et ils sont allés gagner au Racing, qui était invaincu à la maison. La Rochelle n'avait jamais gagné à l'Arena. Et ils ont complètement changé leur profil d'équipe, les Rochelais, depuis l'intersaison déjà. Mais ça avait du mal à porter ses fruits, parce qu'avec tant de blessés à l'infirmerie, il n'y avait pas d'automatisme, pas de repère. Et tout le monde en est sorti il y a quelques semaines, quasiment tout le monde. Ils ont retrouvé leur cadre. Et depuis, ils arrivent à envoyer du jeu. Cette mutation qui a été opérée par les Le Garec, les Lignagevili, les Laguivala, vraiment des recrues phares, recrutement minimaliste mais très important pour La Rochelle, qui va se poursuivre cette transition la saison prochaine. Alors, ils sont effectivement sur une très bonne dynamique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Même un bonus ne suffirait peut-être pas aux Rochelais ce soir. Ils vont avoir les yeux à Chaban entre le match entre Bordeaux et Clermont, et ils auront les yeux à l'Arena entre le Racing et Toulouse. Mais on va écouter Nolan Le Garec, qui a pris une importance folle dans cette équipe depuis maintenant quelques mois. Et puis allez savoir, ça peut peut-être passer, hein, écoutez-le.
Et on est obligé d'avoir tout ce qu'on peut mettre sur ce dernier match. Comme tu l'as dit, on n'a pas forcément toutes les cartes, mais on en a. Je pense qu'en février, on aurait signé pour avoir quelques cartes en main sur ce dernier match. Je l'ai dit, à nous de faire notre match. Je pense qu'il y a peu de gens qui voyaient le Racing gagner avec 5 points la semaine dernière. Peut-être qu'il se passera encore des choses sur cette dernière journée. C'est la beauté de notre championnat. Donc nous, on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser. C'est faire un bon match face au Stade Français, qui a des choses à jouer aussi, qui vient avec des intentions, j'ai entendu. Donc à nous de répondre.
Et il a bien entendu, hein, Nolan Le Garec, on va en parler dans un instant, parce que Paris arrive très armé ici à Deux-Flandres. Mais d'abord, Johan, peut-être ton sentiment. Il faut qu'il regarde donc à Chaban, à l'Arena. Tu penses que ça peut jouer où? Ou alors peut-être que ça ne jouera pas pour les Rochelais. Peut-être qu'ils vont gagner, mais ils vont pas se qualifier. Hein.
Ouais, tout à fait. Déjà qu'ils regardent à Deux-Flandres, déjà ce qui se passe à Deux-Flandres sur 80 minutes. Et ensuite, ils pourront se projeter. Mais le contrat qu'ils doivent faire, c'est juste gagner, et gagner si c'est possible avec le point de bonus offensif, qui n'est pas de regret. C'est surtout ça, la sortie de ce match-là. Et si on avait pris un bonus, et si... Non, qu'ils gagnent avec un bonus offensif s'ils veulent avoir toutes les chances. Mais qui regarde ensuite après dans les autres stades. Mais le stade qu'ils doivent regarder avant tout, c'est Bordeaux, hein, je pense.
Ah, tu dirais plus Bordeaux, toi? Mais j'ai l'impression qu'ils regardent plus du côté du Racing, en tout cas les supporters. Tu vois, et des Rochelais supporters du Stade Toulouse, hein, quand même.
Ouais, c'est ça.
T'as connu cette période où les deux clubs se tiraient la bourre.
Je suis pas sûr que le Stade Toulousain aujourd'hui soit en mesure d'aller gagner au Racing. Ce Stade Toulousain-là, ouais. Même avec un gros banc, ils ont déjà la tête à la demi-finale. Ils préparent physiquement, ils se sont préparés pour la demi-finale. Donc, ils partent en stage dès demain, j'ai l'impression, enfin, je crois. Donc, je suis pas sûr que le Stade Toulousain aille faire un coup au Racing. Et je pense que c'est surtout du côté de Bordeaux, ce Bordeaux-Clermont qui sent la poudre.
On va parler du Racing 92 face à Toulouse dans quelques minutes. Mais Romain, d'abord, les compositions d'équipe. Est-ce que tu peux nous donner les deux 15 de départ?
Allez, on va commencer par le 15 de départ parisien. On va en reparler parce qu'ils sont armés, comme je le disais. Abramijvili et Melikidze qui entourent Nico Terra en première ligne. Les deux Géorgiens. La paire en deuxième ligne dans la cage. Azago, Pesanti. En troisième ligne, on retrouve le centre qui dépanne, enfin, même fait plus que dépanner. Tanivili avec Makalou et Briat. Kerbarlo, l'ancien Rochelet avec Louis Foursens-Bourdette à la charnière. La paire de centre, Néné Ward. Le triangle arrière avec Marchant, Dakouaka et Léo départ et le 15 de départ Rochelet, Wardi, Latous, Clavi, ça c'est la première ligne, Kanté, Samba et Kankoré associés en deuxième, Botia, Aldritz, Boudéan, c'est du très solide en troisième ligne, Le Garec, Astoy, bah c'est la classique à la charnière, le triangle arrière avec Niniashvili, West et Favre, West avec le 15 et au centre on retrouve Seteni, Lagivala. Bon, je ne vais pas vous donner les bancs complets, mais on a quasiment 2-23 types. Allons-y, Johan. Paris qui vient armé, on ne savait pas en début de semaine, ils ont laissé planer le suspense, peut-être qu'ils feraient tourner parce que le barrage à domicile était assuré. Mais il y a quand même un enjeu de taille, même deux, déjà prendre un point, parce que si jamais, et c'est ce qui risque de se passer, Pau gagne avec 5 points à Montauban, il faudrait un point de bonus défensif à Paris pour rester troisième et donc éviter la partie de tableau de Toulouse. Et puis il y a encore la deuxième place, peut-être à aller chercher, même si non, c'est un peu plus hypothétique.
Ouais, c'est un peu plus hypothétique d'aller chercher la deuxième place côté parisien. Je pense qu'ils veulent consolider leur troisième place et surtout recevoir ce barrage. Tout simplement, aller chercher. On sait quand on sait que Pau reçoit Montauban, ça sera compliqué pour les Parisiens d'aller chercher cette deuxième place. Donc ils veulent aussi rentrer dans une forme de c'est le huitième de finale, on va dire, pour ces Parisiens.
Des Parisiens qui sont en attente d'un gros match. Le dernier qu'ils ont joué, c'était contre Pau, c'était fin avril. Depuis, au mois de mai, ils ont joué des mal classés. Alors certes, ils ont engrangé des points face à Montauban, face à Bayonne, face à Lyon, mais ils n'ont pas pu vraiment s'étalonner face à des gros cadors de ce championnat. Que représente d'ailleurs à La Rochelle.
Le pari est risqué côté parisien quand même, d'aller de mettre une grosse équipe comme ça à côté de La Rochelle.
Mais ils sont frais quelque part, Johan, aussi. Parce qu'ils ont procédé à beaucoup de rotations cette saison.
Ils sont frais, mais bon, si ils cassent. C'est compliqué de laisser des plumes sur un match pour eux qui n'a foncièrement pas trop d'enjeu.
Après, j'ai l'impression, t'imagines le bol d'air par rapport à un an en arrière où ils ont joué leur survie jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est que du bonus.
D'avoir une saison en haut, une saison en bas.
C'est vrai qu'il y a deux ans, ils étaient demi-finalistes. Ouais.
Voilà, donc ça, ils sont coutumés de fait. On verra la saison prochaine s'ils ont appris de leurs erreurs.
S'ils arrivent à être un petit peu plus réguliers.
On va voir. Mais bon, ça fait partie de l'ADN du Stade français, d'être un peu comme ça.
Il y a des hauts et des bas. C'est les montagnes russes, effectivement, avec les joueurs du Stade français. Vous avez toutes les informations sur ce La Rochelle face au Stade français. Je vous propose de parier sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Rebonjour, Yoann Bredov.
Rebonjour, Karine Galli. Rebonjour, Yoann Huget.
Bonjour Yoann.
On l'a dit, c'est l'épilogue de la saison régulière de Top 14 et c'est un match très indécis. Alors qui est favori?
Alors c'est pas indécis selon les bookmakers parce que c'est 1,22 seulement la victoire du Stade Rochelet, 34 le nul, 3,85 la victoire du Stade français. Mais Yo, tu vas me dire si t'es d'accord, mais je vois un match quand même plus serré que ce que le disent les cotes. Moi je vous propose la victoire du Stade Rochelet mais entre 1 et 7 points d'écart seulement, match ultra serré, 4,50 pour la cote. Après on peut s'amuser avec des marqueur d'essai si tu veux en donner, Yoann.
Moi je pense que le score sera un peu plus large parce que si les Parisiens commencent à perdre à la 60e, ils vont faire tourner pour le barrage et préserver certains joueurs.
Qu'est-ce que tu vois du coup? La Rochelle avec 15 points d'écart?
Ouais.
C'est 2.
Pas mal, non?
Pas mal.
Moi, tu peux te contenter de ça.
Moi ça me contente.
Dès que je gagne,
ça finit la saison régulière comme ça avec
une raison. T'es petit joueur, Yoann.
Petit joueur, je sais pas, quand on gagne c'est petit joueur.
Non,
je sais pas.
Non, mais on peut gagner avec panache aussi en prenant des risques. Non, non. On valide ton choix. Mais
plus 15, c'est des risques quand même.
C'est à 2 seulement.
Donc c'est pas
Et le tien, il est à combien?
À 4,50.
Oui.
Ah ouais, le panache est de mon côté, j'ai l'impression.
Ouais.
Réponse à la fin du match. Merci beaucoup.
Merci.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous le savez, ce soir, on vit la dernière journée de Top 14 avec beaucoup d'enjeux pour cet ultime rendez-vous de la saison régulière. 7 matchs au programme. On est aux côtés de Johan Huget et de tous nos correspondants qui sont sur les différents terrains. On se retrouve dans quelques instants. Ça se passe sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 20h24, vous êtes sur RMC en direct du studio Roland Courbis. C'est l'épilogue de la saison régulière de Top 14. On est aux côtés de Johan Huget. On vous rappelle évidemment qu'il y a déjà certaines équipes qui ont décroché leur ticket. Toulouse, évidemment, qui est déjà exempt de barrage et qui est qualifié déjà pour les demi-finales. Il y a Montpellier, le Stade français et Pau qui ont déjà décroché leur ticket. Et puis donc, il reste 2 places pour 4 prétendants. Ça va se jouer entre le Racing 92, l'UBB, La Rochelle et Clermont. Clermont. Ce soir, nous sommes sur tous les terrains et vous allez vivre évidemment toutes les rencontres, les 7 dernières rencontres de cette dernière journée de Top 14, la 26e journée. On va prendre la direction de Lyon. Ce soir, nous avons Lyon face à Montpellier. Le Loup qui reçoit le MHR. On accueille Edouard G, mais aussi Julien Landry, notre spécialiste du MHR. Bonsoir messieurs.
Salut Karine, salut à tous.
Alors que pour le monde comprenne bien, Julien, toi tu es à Castres et on parlera tout à l'heure de Castres-Toulon, mais on va évidemment s'intéresser d'abord à ce match qui a de l'enjeu évidemment, et notamment au MHR. On rappelle qu'ils sont deuxièmes et qu'ils se déplacent face au Loup, le Loup qui n'a plus rien à jouer. Du côté du manager de Montpellier, Johan Coudulot, eh bien on a déclaré qu'il fallait faire un all-in à Lyon pour éviter les barrages. Messieurs.
Ah, je croyais qu'on écoutait Johan Coudulot. Ah non, je croyais qu'on entendait.
Non,
c'est bon, ça. Je m'attendais à entendre Johan Coudulot.
Non, je voulais juste que vous me parliez de la tactique mise en place par Coudulot. Il veut être tranquille le week-end prochain, en fait.
C'est ça. Johan Coudulot a dit cette semaine, on a disputé un huitième de finale contre Pau qu'on a gagné. On dispute un quart de finale ce soir à Lyon. Et moi, j'ai envie absolument d'avoir une semaine de vacances. Entre guillemets, vacances. On va plutôt appeler ça une semaine de repos avant d'aller en demi finale du côté de Marseille, parce que faut pas oublier que les Montpelliérains, à l'image des Bordelais, enchaînent les matchs, 12 matchs consécutifs. Ils ont été jusqu'au bout de la petite Coupe d'Europe qu'ils ont remportée au mois de mai du côté de Bilbao. Donc ça fait un enchaînement de matchs, 12 matchs. Et Johan Coudulot craint que cet enchaînement sans vacances, sans repos, pourrait fatiguer les Montpelliérains et être préjudiciable en fin de saison. Donc ce soir, il a décidé, contrairement à certaines équipes peut-être, de ne pas faire tourner du côté de Lyon, d'envoyer la plus grosse équipe possible pour continuer cette série de victoires, aller chercher une dixième victoire consécutive, la 22e en 25 matchs, et s'offrir une petite semaine où les joueurs vont pouvoir faire du frais, vont pouvoir faire de la muscu. Johan le sait bien que c'est une semaine importante. À Toulouse, ils l'ont souvent eu, et c'est vrai que Johan Coudulot compte absolument une victoire ce soir pour espérer être en repos, même si voilà. Alors après, il y aura plein de cas de figure, Karine. En gros, il faut qu'il fasse la même chose que le Stade Français ce soir. Si le Stade Français perd à 0, une victoire 0, ça sera suffisant. Voilà, il faut faire la même chose que le Stade Français pour être assuré d'être deuxième et donc être en demi-finale directe du côté de Marseille.
Johan, qu'est-ce que tu penses de cette tactique où vraiment on sent qu'il y a de la fatigue dans les rangs du MHR, donc il faut absolument ce soir gagner et s'assurer au moins cette deuxième place pour pouvoir un petit peu régénérer les organismes pendant toute une semaine et aussi avoir un petit break?
C'est une prise de risque, pleinement de la part de Johan Coudulot, c'est-à-dire que il pense et il croit en ses chances d'être second, ce qui est bien, mais malgré tout, s'il y a un petit couac, il va enchaîner deux matchs consécutifs et là la fatigue elle sera bien présente. Maintenant ça vaut le coup d'essayer au moins, parce que
c'est du panache.
Ouais, c'est du panache, mais son équipe a joué quand même beaucoup, ils reviennent aussi de loin cette saison. Et ils sont l'une des meilleures équipes de Top 14 depuis janvier, avec très peu de défaites. Maintenant, voilà, attention à se pêcher un peu de gourmandise, d'aller chercher cette deuxième place, alors que un barrage à domicile leur permettrait aussi cette semaine-là de régénérer le groupe. Ouais, c'est 50-50. Si ça passe, on lui dira bravo, c'est le meilleur manager du monde. Si ça passe pas, attention.
Il est évidemment attendu ce soir. Edouard, un mot sur le Loup qui est malheureusement dixième de cette saison de Top 14. Il y a beaucoup de déceptions dans les rangs de Karim Ghezal. C'est quoi la seule bonne nouvelle de la soirée? C'est qu'il y a un anniversaire qu'on va fêter tous ensemble.
Voilà, c'est nos confrères du Progrès ce matin qui disaient: est-ce que les Lyonnais ont le sens de la fête? Tout simplement parce que tu l'as dit, il n'y a aucun enjeu, mais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas d'enjeu dans cette nouvelle saison sans rien, et pour finir au mieux à la dixième place, voire à la onzième pour une équipe qui navigue justement entre la 10e et la 12e place depuis la 8e journée. Donc mettre un point final de fête sur cette saison moyennasse avec beaucoup d'absents. Il va y avoir les fins de match, les fins de carrière avec Lyon pour un certain nombre de joueurs. Il va y avoir quand même le sens de la fête pour le 200e de Félix Lambet, le 100e match pour Ethan Dumortier, et puis surtout les 100 ans Gerland, de la fête que l'on fête ce soir au niveau du Loup. Alors c'est maintenant la tanière du Loup, le Gerland, mais bien évidemment ça a été la tanière de l'OL pendant longtemps. Alors pour faire un peu le lien, c'est un certain Sonny Anderson qui va donner le coup d'envoi. Alors je ne sais pas si c'est entraîné, je ne l'ai pas vu avant le match pour voir si c'était entraîné à donner un vrai coup d'envoi, mais en tout cas c'est la légende brésilienne de l'OL qui va donner donc le coup d'envoi. Et puis on va avoir aussi les 1950, vous savez, ceux qui occupent le virage sud au Groupama, qui occupaient le virage sud ici à Gerland, eh ben, qui sont là également.
Ils
sont un bon millier. Ça va faire un petit peu de bruit. Il va normalement y avoir un peu de fumigène. On va être un petit peu en mode football. Alors, le lien entre ça, c'est tout simplement parce que le team manager du Loup, c'est l'un des leaders des 1950. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de liens entre le foot et le rugby ce soir, donc pour les 100 ans du stade. Un stade qui a aussi connu non seulement du foot, non seulement du rugby, mais aussi des grands concerts, même la venue du pape. Donc on va fêter un petit peu tout ça sur un film qui va être projeté sur les écrans. Voilà, on a le sens de la fête ou pas du côté du Loup, avec une donnée quand même. Les Lyonnais restent sur 10 victoires consécutives face à Montpellier. Ici, la dernière victoire, c'était de Montpellier. C'était le 30 novembre 2011, une victoire, et c'était encore au Matmut Stadium à Vuillermet. Voilà, donc est-ce que ça dessine une forme de bête noire pour Montpellier, mais en tout cas, pour Karim Ghezal et ses joueurs, on a envie de. Mais
ils sortent aussi d'une très belle rencontre face au Stade Toulousain la semaine dernière. Hein. Ils n'ont jamais lâché, ils sont accrochés. Ils ont été très bons offensivement et on a l'impression que cette équipe-là, lyonnaise, prépare déjà demain. Donc l'avenir, c'est la saison prochaine, ils ont tout intérêt à faire une belle prestation pour leur dernier match à domicile.
C'est ce que disait Karim Ghezal cette semaine en conférence de presse. On est déjà dans l'année prochaine. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de jeunes, notamment à Toulouse, qui ont été lancés.
Ça s'annonce compliqué de toute façon ce soir. On rappelle hein, quand même pour Lyon qui est 10e face à Montpellier 2e. Messieurs, on va se tourner vers les 15 de départ. J'allais dire les 11 de départ. Tu vois, c'est mon côté foot. Qu'est-ce que nous propose ce soir Karim Ghezal côté Loup?
Alors, une première ligne avec Jérôme Rey, Camille Chat et Pietriori. Ensuite, Théo William, Arnaud Botta. Et puis la troisième ligne avec Guylaine Cretin, Liam Allen et Sam Simmons qui sera en capitaine. Charlie Cassan et Martin Méliande pour demi d'ouverture. Et puis après, l'homme au 18 essais jusqu'à présent, Wayne Nicolo avec Ethan Dumortier. Les trois quarts centres, c'était Omillet et Maracou. Et derrière, Alexandre Tchatchet, voilà pour l'équipe du Loup du côté de Montpellier. Là, c'est la grosse équipe, hein, Julien. On n'a pas fait d'impasse. Il n'y a que les absents qui sont. Les blessés, pardon, qui sont absents.
Tu nous la donnes également, Edouard ?
Allez, Enzo Forletta, Tolofua et Okatin pour la première ligne. Verag et Duguit pour la deuxième. La troisième ligne avec Yakuba Kamara, Lenny Nouchi qui sera capitaine et Vanipula, le troisième membre de cette ligne. Ensuite, Alistair Price, Léo Colli donc pour demi de mêlée, demi d'ouverture et Tom Banks, Augustin Cadeau, Arthur Vincent et Gabriel Ngandébé pour la ligne des trois quarts et derrière. Stuart Hogg, voilà pour l'équipe Montpellier-Rennes.
Merci messieurs, merci Edouard, merci Julien. On revient te voir, hein, Julien, dans quelques minutes pour nous faire vivre le Castres-Toulon. Tu ne bouges surtout pas. On va s'intéresser à nouveau à un gros match et celui entre le Racing 92 et Toulouse. On prend la direction, évidemment, vous le connaissez, de la Défense Arena. C'est à quelques kilomètres des studios d'RMC où Clément Cressio nous attend. Salut Clément.
Salut Karine, salut Johan.
Clément, nous avons le cinquième qui reçoit le leader Toulouse. Une victoire des Franciliens ce soir leur assurerait le top 6. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. On va d'abord s'intéresser évidemment au Racing Men. On rappelle qu'il devait absolument aligner 18 gifs. Sinon, il risque une pénalité pour la saison prochaine. Est-ce que le souci a été réglé ?
Oui, le souci largement réglé puisque ce soir il y a 19 gifs alignés dans la composition, enfin dans les 23 franciliens. Les seuls non-gifs qu'il y aura, c'est Johnny Hill en deuxième ligne, Vinaya Abossi le centre fidjien, Waime Naitouvi sur l'aile et le remplaçant talonneur Diego Escobar le chilien. Donc problème réglé. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler cette semaine, mais aligner 18 gifs dans la saison, le Racing l'a déjà fait pour des résultats qui sont plutôt probants. Une victoire contre Clermont 43-31 et une défaite à Castres 20-16 avec le bonus. Donc c'est pas quelque chose qui fait trop peur aux franciliens. Ils sont capables d'amener ici une équipe très compétitive malgré le nombre de gifs alignés.
On va s'intéresser également aux Toulousains. Alors j'ai bien compris a priori que Johan lui ne voyait pas une victoire toulousaine ce soir parce qu'il les sent quand même émoussés, et il y a des raisons à ça, parce que le champion de France, alors ok, ils ont assuré leur place en demi-finale, mais il y a quand même un jeu actuellement qui est pas flamboyant, et puis il y a aussi des absents et notamment Dupont qui n'est pas là ce soir. Donc est-ce que toi t'es aussi je sais pas si tu es pessimiste Johan, mais en tout cas tu es un petit peu inquiet? réaliste.
Je suis réaliste.
Est-ce que tu es réaliste, Clément?
Ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour Toulouse, mais ils sont là pour travailler. Ils l'annoncent depuis plusieurs semaines. Ils travaillent des choses à l'entraînement. Ils font beaucoup de physique. Donc, on l'a vu, un petit manque de fraîcheur sur les matchs derniers. Il y a eu, on va dire, peut-être des errements défensifs. Offensivement, il y a eu quelques petits soucis. Mais en même temps, ils sont dans une phase où ils travaillent parce qu'ils sont qualifiés en demi-finale déjà. Ce soir, on a encore une équipe hybride avec à la fois quelques cadres, mais aussi des petits tests. Dans les cadres, on a Julien Marchand, par exemple, qui est au talon titulaire capitaine. On va retrouver Alexandre Roumat en troisième ligne titulaire, Calvin Gourgue, et aussi des petites nouveautés comme Thomas Lacombre, jeune talonneur normalement, qui est aligné avec le numéro 6 ce soir, donc en troisième ligne. On va trouver aussi en tout 4 piliers droits dans les 23, avec Joël Mercler sur le banc qui pourrait rentrer en deuxième ligne, il l'a déjà fait, Georges-Henri Colombe, Paul Malaise qui joue pilier droit normalement, qui a déjà dépanné à gauche, il dépanne à gauche. Et donc tu l'as dit Karine, pas de Dupont ni de Graou, c'est Naoto Saito qui est demi-mêlé ce soir avec Blair Kinghorn. L'Écossais, il joue déjà demi d'ouverture parfois. Il ne l'a fait que 5 fois cette saison avec Toulouse. Donc voilà, des petites nouveautés, des petites choses à travailler. Et puis notez quand même le retour de Ange Capozzo, l'international italien, qui s'était blessé pendant le tour de destination. Alors il était revenu la semaine passée en tant que remplaçant. Là, il est titulaire. Il a assez peu joué en top 14 cette saison, notamment dû à la blessure. Et pourtant, il postule fort pour les phases finales. Et ça aussi, ça compte, Johan. Il y a des joueurs qui sont là aussi pour tout donner, pour essayer d'arracher un strapontin pour jouer les phases finales. Donc ça peut quand même donner des choses intéressantes, même s'il y a sur cette composition des petites nouveautés.
Oui, bien sûr. Sachant qu'il a cette faculté à aussi à couvrir le poste du numéro 9 hein, ce soir. Donc ça, si Paul Graou ou Antoine Dupont sont un peu trop justes pour les demi-finales, et le Stade Toulousain peut compter sur lui également. Donc c'est une pièce importante dans l'effectif du Stade Toulousain.
Et dernière petite chose, il y aura juste, me permet, un gros banc. Voilà, un gros banc côté toulousain, avec, je vous le donne rapidement, Guillaume Cramon, Cyril Bailly, Joël Mercler, Jack Willis, François Cross, Thomas Ramos, Mathis Lebel et Georges-Henri Colombe. Donc attention à l'heure de jeu quand le banc va se vider, ça peut faire mal aussi parce qu'il y a. Il y a des costauds quand même là sur ce banc.
Il y a du monde, il y a de la qualité. Tu restes avec nous, hein, Clément. Tu vas nous donner d'ailleurs le 15 de départ du Racing 92 dans quelques secondes. Mais Johan, j'aimerais te faire réagir sur Thomas Lacombre. Parce qu'il nous l'a dit, hein, Clément, c'est le talonneur le plus utilisé de la saison par Mola. Et ce soir, on le retrouve en troisième ligne. Bonne idée ?
Bonne idée, on ne sait pas, tant qu'il n'a pas joué en 3
minutes, personne
l'a vu. Mais ça me plaît parce que Toulouse a cette habitude, cette faculté aussi à déplacer les joueurs, à les avoir polyvalents. On pense un peu à Tomo Vaca aussi également, qui avait joué en poste de numéro 6. Mais ça me plaît, oui et non, parce qu'il y a aussi François Cross dessus, donc il peut couvrir les deux postes, j'ai l'impression. Lacombe, mais c'est un joueur explosif qui est pétri de talent et peut-être que de le faire jouer 3e ligne, ça va lui enlever un peu plus de pression.
Le Racing 92 face à Toulouse. Tu nous as détaillé le 15 de départ de Toulouse et notamment le banc également qui est important ce soir. Tu peux nous donner également le 15 de départ du Racing, Clément, s'il te plaît.
Bien sûr. Alors, en première ligne, on aura Gourem Gogi Chachvili, Yannick Tarit au talon, accompagné de Karechvili, pilier droit. John Hill en deuxième ligne avec le capitaine Taofi Fenois. Maxime Bodon qui va faire son 26e match de top 14 cette saison. Il aura participé à toutes les rencontres. Faut le noter quand même, le jeune troisième ligne, accompagné de Soumaïla Camara et de Tagi Tagi Valou en numéro 8. La charnière, ce sera Carbono Gibert. Gaël Ficou aligné sur une aile. La dernière fois qu'il a joué à l'aile, c'était en janvier dernier. Au centre, ce sera Tuisova Abossi. Sur l'autre aile, c'est Naitouvi et Max Spring qui est à l'arrière. Pour les remplaçants, donc Diego Escobar, le Chilien, remplaçant talonneur. Edouard Njoke, le pilier. Jordan Joseph, Ibrahim Diallo, Fabien Sanconi, Hugo Sun, Vladi Hvetia, le jeune centre géorgien. Et pour finir, Demba Bamba à droite.
Merci beaucoup. Voilà pour les choix de Patrice Collazon. On rappelle le 5e qui reçoit le champion de France en titre et actuel leader de top 14. Toulouse, ce soir, vous allez donc connaître tous les qualifiés pour les phases finales de top 14. On est ensemble jusqu'à minuit. L'intégralité des matchs de rugby, bien évidemment. Et puis juste après, il y aura l'after foot avec Florent Gautreau et Maxime Chanot. On se retrouve dans quelques instants pour vous faire découvrir tous les matchs avant le coup d'envoi. On rappelle à 21h05 avec les 7 rencontres qui vont se jouer en même temps. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'after live.
Karim Galli.
20h42, vous êtes sur RMC. Ce soir, on vit l'épilogue de la saison régulière de Top 14 avec cette 26e journée à enjeu. 7 matchs, on est évidemment présents sur les différents terrains. On va vous faire vivre tous les enjeux de cette dernière journée. Vous le savez, il y a du rugby, mais pas que. La Coupe du Monde commence dans quelques jours sur RMC. RMC radio officielle de ce mondial du 11 juin au 19 juillet. Et aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, vous pouvez remporter votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 stickers. Toutes les 30 minutes, il y a un gagnant qui est tiré au sort. Vous avez qu'à envoyer dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. Bonne chance à tous. Et vous le savez également, on vous offre des moments absolument exceptionnels sur RMC. Demain, une émission rare en direct de Dakar. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, le premier rendez-vous de l'équipe de France lors de ce mondial, ça sera face au Sénégal le 16 juin prochain. Et on vous propose une émission délocalisée avec Gilbert Bribois, avec Souleymane Diawara ou encore d'anciens internationaux sénégalais. Ça va se passer en direct de l'Institut français à Dakar. L'entrée est libre et gratuite, donc n'hésitez pas à vous rendre sur place. C'est de 18h à 20h, heure locale, donc heure sénégalaise, et vous retrouverez évidemment l'émission en direct ici en France, et de 20h à 22h, donc un after spécial en direct de Dakar. Soyez nombreux et venez à la rencontre de Gilbert Bribois, de Souleymane Diawara et de tous les autres invités. Je vous rappelle donc la 26e journée de Top 14 ce soir avec son épilogue, les différentes rencontres, beaucoup d'enjeux. Il y a Bordeaux-Bègles face à Clermont, nous avons La Rochelle face au Stade français, le Racing 92 qui reçoit Toulouse, Lyon est opposé à Montpellier, Pau face à Montauban, Castres face à Toulon et enfin Bayonne qui est opposé à Perpignan. On va prendre la direction du sud-ouest avec Eddy Artigaud qui va nous faire vivre Pau face à Montauban. Salut Eddy.
Salut Karine, bonsoir à toutes et à tous.
Eddy, nous avons le quatrième face au dernier. Alors évidemment, Pau est largement favori. Faudrait un cataclysme pour que les Palois ne s'imposent pas ce soir. L'objectif est très clair pour les Béarnais, c'est gagner avec une victoire bonifiée et ainsi s'assurer un barrage à domicile.
Oui Karine, tu as planté le décor effectivement. Alors même une victoire, même sans bonus offensif, et la section paloise serait assurée de terminer dans les 4 premiers. Mais une victoire bonifiée pourrait propulser la section paloise au 3e rang de ce classement général, devant peut-être le Stade français si les Parisiens venaient à s'incliner lourdement sur la pelouse de La Rochelle, et donc aller disputer effectivement un barrage à domicile. L'objectif de Sébastien Piccheroni, le manager des Verts et Blancs, rappeler simplement que la section paloise est la dernière équipe invaincue de ce Top 14 à domicile tout au long de cette saison. Donc objectif victoire ce soir pour aller disputer un barrage. Ce sera ou samedi si la section finit 4e, ou dimanche soir si la section finit 3e. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde cette équipe de Montauban qui n'a plus gagné un match en Top 14 depuis maintenant de longs mois, on voit mal comment cette équipe béarnaise pourrait s'incliner à domicile. Donc victoire oui, victoire bonifiée, ce serait la cerise sur le gâteau devant un stade qui sera plein, encore 15 000 spectateurs ce soir ici pour pousser derrière la section paloise qui n'a plus regoûté à une phase finale. Karine, c'était depuis 2014 et ça montait justement dans l'élite du rugby français. Donc tout un peuple béarnais attend ça depuis maintenant un petit peu plus de 11 ans. Cerise sur le gâteau, ce sera peut-être aux alentours de 22h45, 23h, donc à l'issue donc du coup de sifflet final entre cette section paloise et cette valeureuse équipe quand même de Montauban.
T'es sympa pour Montauban, valeureuse
équipe. Oui, oui, oui.
Ils s'accrochent.
Ouais, ils s'accrochent. On rappelle qu'ils sont évidemment relégués en Pro D2 malheureusement. Yoann, un mot sur les Palois. Quelle saison, hein, magnifique saison réussie notamment à domicile avec ce stade du Hameau, une forteresse imprenable.
Ouais, effectivement. Ouais. Ils ont réussi à être invaincus et surtout à produire un jeu incroyable avec une jeune équipe, on le rappelle, et se qualifier de fort belle manière. Maintenant, je ne doute pas qu'ils prennent 5 points ce soir face à Montauban.
Effectivement, ils sont largement favoris. De toute façon, Eddy, c'est une évidence. On ne peut pas envisager autre chose qu'une victoire bonifiée.
Non, c'est sûr, ce sont les mots de Sébastien Piccheroni, même si le manager général des Verts et Blancs restait quand même très très prudent tout au long de la semaine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, en vue d'un barrage à domicile, donc samedi ou dimanche prochain, eh bien Piccheroni a fait tourner quand même un petit peu son effectif. Les Broboiry, Grand Didier, Despérès ou encore Atis Ogbe, seront tout simplement en costume ce soir, assisteront à cette rencontre dans les tribunes. Alors il y aura certainement quelques cadres qui pourraient rentrer rentrer peut-être à l'heure de jeu. On pense notamment à Emilien Gaëtan ou encore à Jack Maddox qui sont ce soir sur le banc des remplaçants. Mais c'est vrai que même avec une équipe un petit peu hybride, la section paloise devrait rouler sur son adversaire pour se qualifier donc pour les phases finales, c'est certain, et disputer ce barrage à domicile, puisque une information aussi d'importance, en s'inclinant à Montpellier la semaine dernière, Pau n'a plus aucune chance de terminer donc à la deuxième place. Donc ce sera un barrage quoi qu'il en soit pour les verts et blancs ce soir à l'issue de cette saison régulière,
soit contre le Racing soit contre Bordeaux.
Oui, et alors Johan, la tendance voudrait que la section paloise dispute ce barrage face à Bègles, car on voit bien aussi le Stade Français recevoir le Racing, évidemment en fonction des résultats. Mais c'est vrai que la tendance
deux derby,
serait peut-être
deux derby à peu près. Hein,
deux derby, ouais. De derby face au champion d'Europe à domicile, ce serait vraiment, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais l'énorme cerise sur le gâteau que de voir la section paloise défier le double champion d'Europe en titre au Hameau samedi ou dimanche prochain.
Et il dit arrête avec tes cerises sur le gâteau, tu me donnes faim.
Voilà. Ouais, c'était aussi le but, Karine.
Et t'as commencé à nous donner des informations sur les 15 de départ. Est-ce que tu peux nous les détailler des deux côtés? On commence évidemment avec Pau.
Oui, évidemment, avec en première ligne Bibiziou, Lucas Rey et Zabala l'Espagnol. La deuxième ligne avec un attelage Rémi Pitek et Jimmy Maxima. La troisième ligne avec Rander Kossefo, Thomas Jolmes et Loïc Credoz. À la charnière, Thibaut Dobagna et Joe Simons. Les ailiers, ce sera Emre Kluk à gauche. Il y aura Clément Laporte à droite. Les deux centres avec Nathan Decron et Manu. Et puis à l'arrière, ce sera Clément Mondina du côté de Montauban. Il y aura en première ligne Cérol, Inchata Paradze. Il y aura également Mafileo. La deuxième ligne avec Wilkins et Bilonda. La troisième ligne avec Koularis, Winvani et Mafaou. La charnière, ce n'est pas une surprise, Castel et Fortunel. Les ailiers, il y aura Vallée d'un côté, ceux de l'autre. Et il y aura les deux trois quarts centres avec Renda et Espot. Et enfin à l'arrière, sans surprise, Baptiste Mouchou. Voilà donc pour les 15 de départ. Palois et Montalbanais.
Merci beaucoup Eddy, on revient te voir évidemment dans quelques minutes. Julien Landry, vous l'avez déjà entendu, on va le retrouver, mais il est bien à Castres ce soir au stade de Pierre Favre pour nous faire vivre ce Castres-Toulon. Salut Julien.
Re-salut Karine, re-salut Johan. Effectivement, à Pierre Favre pour un match comme certains derniers matchs de journée, sans beaucoup d'enjeux, à part dire adieu aux gens qui quittent le club en fin de saison.
Voilà, parce qu'on rappelle que c'est le 11e face au 9e, donc effectivement ce sont deux équipes qui ne peuvent plus prétendre aux phases finales, mais il y a quand même évidemment des choses à dire, et notamment du côté de Toulon, parce que c'est une nouvelle saison ratée pour les Toulonnais.
Ouais, c'est même probablement la plus grosse déception de cette saison, hein, les Toulonnais qui, on le rappelle, la saison dernière avaient fait quart de finale de Coupe d'Europe avant de perdre en demi-finale du championnat. Cette année, ils voulaient franchir un palier. Ils ont de nouveau été en quart de finale de Coupe d'Europe. Ils ont perdu au Leinster. Mais surtout là, Johan, le gros accident, c'est que ils ne sont pas qualifiés dans les 6. Ils vont même pas être dans les 8. C'est-à-dire que la saison prochaine, il n'y aura pas de grande Coupe d'Europe à Toulon. On sait que la saison toulonnaise, elle a été marquée par la mise en retrait à un moment de Pierre Mignoni pour une décompensation, comme le manager l'avait dit. On sait que en fin de saison, Pierre Mignoni devrait prendre du recul, devenir un petit peu plus directeur du rugby. Franck Azéma est annoncé sur le banc pour reprendre un petit peu la direction du rugby. Mais c'est vrai que la saison toulonnaise, avec quand voilà la qualité de l'effectif, des Charles Olivon, des Baptiste Serin, beaucoup d'internationaux, des internationaux quasiment à tous les postes, terminé 9e de ce championnat, c'est véritablement une grosse déception pour les hommes de Pierre Mignoni.
Oui, quand on voit l'effectif qu'ils ont, effectivement, on se dit qu'ils auraient leur place largement dans ce top 6, mais malgré tout, ils ont eu un cadeau empoisonné, cette demi-finale, je pense, de Champions Cup qui leur reste encore dans les pattes. Ouais. Et c'est dommage parce qu'ils passent d'un état un peu de grâce avec cette demi-finale au Leinster, où on sent qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose, et au final cette défaite a engendré beaucoup de choses, avec notamment une défaite contre Toulouse dès la semaine d'après au Vélodrome, qui leur compromet leur chance d'être dans le top 6.
C'était la demi-finale, exactement, contre Leinster. Ils avaient été gagnés à Glasgow en quart de finale avant de s'incliner en demi du côté du Leinster. Et du coup, Karine, ce soir, on va faire quelques revues d'effectifs des deux côtés. Alors, côté Toulonnais, ça sera Ametla, Damon, Gigashvili pour la première ligne, Kapoukou, Alouneizé en deuxième ligne, Karaba, Mercer, Coulon pour la troisième ligne, Lebaï, Garcia, la charnière, Ferté, Tuikovu sur les ailes, Smaili, Friche au centre, Jaminé à l'arrière. Avec du beau monde par contre sur le banc. On retrouvera notamment Baptiste Serin, Jérémy Saint-Zel, Jean-Baptiste Gros. Et côté Casseret aussi, on a envie de finir cette saison un peu mieux, parce que bah, la série de défaites est impressionnante pour les Castrés aussi, hein, qui nous habituent souvent en fin de saison à aller décrocher une place dans les six cette année. Ils ne vont pas y être, pas non plus de grande coupe d'Europe. On aura Kerouac, Durand, Collier pour la première ligne, Stanifors, Ducas en deuxième ligne, Delaporte, Romota Touba, Bois, Ardron en troisième ligne, Arata, Lebrun pour la charnière, Karawalevou, Godou au centre, Bagé, Palis aux ailes, Chabouni à l'arrière, et puis à la fin évidemment des hommages à tous les joueurs qui quitteront le CO en fin de saison.
Magnifique, merci beaucoup Julien, on revient te voir au cours de la soirée bien évidemment. On va retourner à Bordeaux, l'UBB face à Clermont avec Pierre Thévenet. Pierre, l'ambiance monte à quelques minutes du coup d'envoi, on rappelle un coup d'envoi de tous les matchs à 21h05.
Et ça se remplit, ça va être évidemment à guichet fermé, Chaban Delmas ce soir. Les équipes ont terminé leur entraînement, sont retournées dans les vestiaires. Beaucoup de Bordelais évidemment, une petite grappe de supporters clermontois présents également. Pour rappeler les compos rapidement des deux équipes, on rappelle les absents à Bordeaux, Jalibert, Woki, Tameifuna, deux porteurs notamment sont absents. Ça donne une première ligne, Jefferson Poirot avec Maxime Lamotte et Carlou Sadi, Palu Coleman pour la deuxième ligne, Bastien Verntaeffer en numéro 6, Pierre Beauchaton numéro 7 et le jeune international Thémo Mathieu en troisième ligne centre. La charnière, Maxime Lucu, le capitaine bien sûr, est associé au jeune Hugo Russ. Moïfana Penaud au centre, Biel Biarré sur l'aile gauche, Pablo Huberti sur l'aile droite et Romain Buros à l'arrière. Côté clermontois, seul Thomas Sett est absent. Sacha Lautrian en première ligne avec Massa et Montagne, Thibault Lanen, Marcos Kremer en deuxième ligne, Tixeron, Emery et Tolofoa pour la troisième ligne. Une charnière, Baptiste Jonot capitaine, les deux demi-mêlés sont capitaines ce soir, associés à Harry Plummer, le meilleur réalisateur du top 14, Dari Carrère et Loa Loa au centre, et le triangle arrière, Yérim Fall sur l'aile gauche, Bautista Delgui sur l'aile droite et Kylian Hamdaoui, l'ancien parisien titulaire à l'arrière.
Merci beaucoup. Johan, un petit mot avec toi par rapport à cette dernière journée. Sur qui tu miserais pour aller avoir une semaine de travail complète sans match le week-end prochain? Qui tu penses qui va réaliser cette performance? On rappelle que Toulouse est déjà qualifié pour les demi-finales, donc eux, ils sont tranquilles. Mais qui tu vois aux côtés de Toulouse?
On voit les Montpellierains, ils sont sur une bonne dynamique.
Toi, tu restes au niveau du classement, quoi.
Voilà. Pour moi, le classement ne va pas bouger.
Ah bon?
Ouais. C'est dommage, hein, ça met un petit suspense.
Ah bah non, moi, mais attends, Johan, on est en sorte ce soir, on est sur tous les terrains, on veut des retournements de situation complètement fous.
On espère, mais pour moi, les équipes vont tenir leur rang et celles qui maîtrisent leur sujet, que ce soit le Racing, Bordeaux, je ne les vois pas perdre à domicile.
D'accord.
Donc désolé si je casse un peu l'ambiance, mais c'est la réalité du terrain. Quand on reçoit, on a la chance de recevoir. Je ne vois pas comment on peut laisser échapper une qualification dans les 6 alors que on a 80 minutes. Les Bordelais ont fait le boulot la semaine dernière. Le Racing également aussi à Clermont pour tout gâcher aujourd'hui. Je n'y crois pas.
Et Yoann, tu as éteint de Flandre là. Il n'y a plus un bruit à de Flandre. De Flandre va rester à la place du cocu, 7e ce soir. Voilà. Ouais, j'ai transmis le message.
Mais en tout cas, ils sont en Coupe d'Europe. C'est beau déjà.
Oui.
Ouais, non, j'ai coupé l'ambiance de tout le monde.
Tout
le monde s'est enflammé, mais vous me posez une question, je réponds.
Mais on aime ta franchise, mais on s'est dit qu'a priori, tu allais nous dire autre chose, mais au moins, tu es très clair, voilà, tu es droit dans tes bottes, tu ne vois aucun changement. Mais je suis sûr, moi, qu'il va se passer des choses absolument fabuleuses sur les différentes pelouses. Merci beaucoup, Pierre. On va aller justement retrouver Romain Asselin, parce que là aussi, l'ambiance est forcément très belle et très chaude. On rappelle que La Rochelle est opposée au Stade Français. C'est le 7e face au 3e. Romain, ça va bouger ce soir.
Bah écoute, c'est tout ce que souhaite De Flandre. De Flandre qui part de très loin. On en a parlé tout à l'heure. Attends, juste une belle image. Petite parenthèse avant de parler du match. Mais tiens, Johan, si je te dis qu'il y a des maillots tout rouges et des maillots tout bleus, une quinzaine dans les tribunes de Flandre, ça te fait penser à quoi?
Rouge et bleu?
Ah ouais. Tout alors tout rouge ou tout bleu? Ouais. Pense à Ogara. Il y a des supporters du Munster et du Leinster qui ont réussi à trouver des places à De Flandre, qui affichent complet pour la 118e fois consécutive en top 14. Moi, j'ai plein de potes qui n'arrivent pas à trouver des places.
Que font-ils là?
Je sais pas. Ils viennent supporter Ogara, lui faire les œufs doux, je sais pas. Mais en tout cas, le manager de La Rochelle, il a sa petite assistance. Ils sont là à pousser avec. Ils sont quasiment autant que le parkage des supporters parisiens. C'est quand même une belle image.
Ce ne serait pas des parisiens, surtout?
Comment?
Ce ne serait pas des parisiens, tout simplement?
Non, c'est pas des Parisiens. Tu penses habiller en rouge avec un accent irlandais et la bière à la main? Non.
Non. Là, franchement, il serait vraiment en totale immersion. Là, ça serait quand même un petit peu gros. En tout cas, on va suivre ce match et les 7 autres. On vous rappelle de cette 26e journée de Top 14 ce soir. On saura évidemment qui joueront les barrages. On rappelle que Toulouse est assuré de finir premier et le suspense est total pour la deuxième place et le ticket directement pour les demi-finales qui se joueront à Marseille les 19 et 20 juin. Le coup d'envoi des 7 matchs dans quelques instants avec cette 26e journée de Top 14 qui termine donc la saison régulière en rugby. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, l'After Live.